Bonjour Akhenaton.
Bonjour.
Et merci de venir à France Inter de bon matin. IAM qui sort donc son 10e album, 30 ans de carrière également. Et au passage un concert, ce sera jeudi soir au studio 104 de la Maison de la Radio. Cet album, 16 nouveaux titres, album qui est baptisé Yazuke. Alors Yazuke, c'est un esclave africain devenu samouraï, on est au 16e siècle. Il va finir à la cour du seigneur au Japon. Cette force de caractère Yazuke, c'est un peu la tonalité que vous souhaitiez donner à cet album, 2 ans après le précédent?
C'est un peu la force de caractère dont on a fait preuve dans notre histoire avec vraiment beaucoup d'humilité aussi. On nous répétait quand on était tout jeune, arrêtez avec votre musique, trouvez un job un peu plus sérieux que ça. C'est bien, mais bon, dans un an, le rap c'est terminé, puis nous revoilà 35 ans après à faire toujours de la musique. Et puis il y a un fait d'actualité qui nous a fait choisir ce titre. Il y a un an de ça, il y a un petit qui a été retrouvé mort en Méditerranée avec son bulletin de notes cousu dans sa veste. Il avait 14 ans et avec Joe, quand on a écrit l'album, on s'est dit mais peut-être s'il avait franchi la mer, lui aussi aurait été un Yazuke, on n'en sait rien. Et c'est une histoire qui a été très émouvante, sachant qu'on a beaucoup d'enfants et on a fait une identification. Voilà.
Avec une dizaine d'invités dans cet album, hein, psychiatre de la rime, Kalash, Faf Larage, c'est la famille, hein, pratiquement.
Faf Larage, c'est
le frère.
Ouais.
Il y a toujours un clan IAM en France.
Moi, je pense qu'il y a, quand on parle de clan, c'est vraiment une, j'ai une relation familiale avec les autres membres du groupe. Il y a, on peut dire au départ, c'était des amis. Et puis maintenant, on passe quasiment la moitié, voire les 2/3 de l'année ensemble. On est sur la route, on fait beaucoup de concerts. Et j'ai une relation avec le reste du groupe qui est quasi fraternelle. Donc avec ses frères et ses sœurs, on se dispute, mais aussi on s'aime beaucoup.
Du rap depuis 35 ans, ce statut de IAM en tant que pionnier et humaniste du rap français, c'est plutôt encombrant ou est-ce qu'au contraire vous le revendiquez ?
Le côté pionnier, c'est pas encombrant parce que c'est factuel, c'est vrai, j'ai commencé à rapper en 1984, à cette époque-là beaucoup de gens dansaient. Et donc on a été parmi les premiers groupes à sortir des disques. Le côté humaniste, c'est plus compliqué. Je pense qu'on est plus... ce qu'on fait, ça se rapproche plus du journalisme, du témoignage. On apporte très peu de solutions. On témoigne de certaines choses qu'on voit. Alors, on donne notre avis, mais ce qui nous dépite particulièrement, et notamment en France, c'est la disparition de la nuance. Il n'y a plus de nuance dans tout ce dont on parle, que ce soit des faits d'actualité, des faits de société, voilà.
Et puis il y a beaucoup de rappeurs, de jeunes rappeurs qui sont pas issus de la culture hip-hop. Or, c'est mieux de la connaître pour être un bon rappeur, non ? Pour maintenir un certain niveau.
Je sais pas si c'est pour être bon, c'est mieux de la connaître. Parce que j'ai rencontré des jeunes filles et des jeunes gars qui sont très forts sans nécessairement la connaître. Ils ont juste ce don-là, ils sont nés dedans. Par contre, c'est mieux sur la longueur, on va dire. Quand on veut durer... Il faut connaître son passé. On n'est pas un groupe qui regarde trop dans le rétroviseur, mais le rétroviseur, l'histoire, doit se mettre au service du futur, et du présent et du futur.
Quel rapport d'ailleurs est-ce que vous entretenez avec la jeune génération? Je pense à Aurel San ou Jul par exemple. Vous avez des contacts entre les différentes familles de rappeurs en France?
On fait beaucoup de concerts et beaucoup de festivals, donc du coup on les rencontre. D'ailleurs, par exemple avec Kalash, c'est à l'issue de rencontres multiples dans des festivals, et on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un morceau. Après avoir rigolé, partagé des moments ensemble, bu des coups, mangé à table plusieurs fois ensemble, on s'est dit bon, il va falloir faire un morceau. Et c'est vrai qu'on les croise, et moi je pense que c'est valable pour tout le reste du groupe, mais on en regarde tendre. Alors on peut des fois ne pas apprécier certains pans de leur musique, mais par contre moi je respecte profondément leur créativité, leur inventivité, même si des fois d'un point de vue musical ça ne me parle pas forcément.
À propos de l'aspect humaniste, on en parlait à l'instant, dans l'un de vos titres, Le Train de l'Argent, vous dénoncez le dollar comme ambition d'une génération, la weed, la coco en plus, c'est-à-dire la drogue en prime, l'argent, le bling-bling, les grosses voitures, les armes à feu, est-ce que ça fait encore partie des mythologies du rap en 2020?
Ça fait partie de la mythologie de notre société.
Et c'est antidémocratique, non?
Et quand dans notre pays, ou dans un pays, surtout dans un pays comme aux États-Unis, la NRA fait quasiment voter des lois.
Le lobby des armes aux États-Unis.
Voilà, le lobby des armes aux États-Unis. Le rap n'est que le reflet de la société. À un moment donné, si on a des rappeurs qui veulent consommer, qui veulent avoir tous ces trucs-là, il y a des gens qui ont produit des émissions dans des grandes télévisions et ont bombardé les télés publiques d'émissions où on dénonçait, on se moquait de son voisin, ah, tout le monde a rigolé, on est était un peu violent, on passait pour le bad boy de service. Mais au bout d'un moment, des gamins, ils reçoivent ça. C'est ce que j'ai dit une fois à une députée qui était de droite, qui comprenait pas du tout le rap. De gauche, ils comprennent pas mieux. Mais elle, malheureusement, pour elle, était de droite, elle me disait, mais le rap, c'est si, c'est ça. J'ai dit, mais ils ont vos valeurs. C'est ce que vous leur avez donné. C'est toute la nourriture que vous leur avez donnée, sauf qu'ils n'ont pas le niveau d'éducation, l'égalité des chances n'existe pas. Et donc, à un moment donné, quand ils ne peuvent pas avoir, ils ne peuvent pas être et paraître comme vous leur vendez, ils le prennent par la force. Il faut juste comprendre que le rap est à votre image.
Et désormais, dans les morceaux de IAM, et c'est valable encore dans cet album, vous parlez aussi de vos gosses, dont vous espérez qu'ils ne resteront pas là où ils ne respirent plus. Qu'est-ce que vous craignez pour vos gosses aujourd'hui ?
Moi, je crains que la France bascule complètement dans la peur et dans l'hystérie et dans le fait de d'ériger la culture de la destruction comme unique culture. Renforcée par les réseaux sociaux, au bout d'un moment, on ne construit plus, on essaie de pointer du doigt l'autre qui ne fait pas les choses bien, mais on fait pas un bilan sur soi-même. Donc, au bout d'un moment, je pense que dans ce pays, on doit remettre les choses à l'endroit et avoir des discussions, du partage, de l'amour, de l'échange, beaucoup de culture, et arrêter ce petite course au buzz effrayant qu'on a, qui pourrit complètement l'atmosphère du pays.
Moi, je voudrais revenir sur le nom que vous vous êtes choisi. C'est quand même pas un hasard. Vous êtes un passionné d'histoire. Vous êtes un passionné aussi de l'Égypte, je crois. Akhenaton, Akhenaton. D'ailleurs, je sais jamais comment
il faut prononcer. Il y a un débat
prononcer.
France Inter, oui, Akhenaton, voilà. Akhenaton. On dit Akhenaton, mais en fait, la bande-annonce, c'est Akhenaton.
Oui, Akhenaton, ouais. Parce que c'est la traduction grecque du mot égyptien,
voilà.
Dans ces tonnes.
Donc, ouais. De toute façon, c'était un pharaon qui a tenu quand même Néfertiti entre ses bras. Donc, il y a pire dans la vie. Pourquoi est-ce que vous avez... Non, mais comment est-ce que c'est venu, ce choix?
Ça n'a pas été le choix, le choix premier.
Ouais.
C'était surtout un pharaon révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a mené
le monothéisme,
il a mené une révolution en Égypte.
Vous parlez de révolution, je vous parlais d'élections, moi, les élections municipales à Marseille. Jean-Claude Gaudin est élu depuis un quart de siècle, il ne va pas se représenter. On a du mal à savoir d'ailleurs quels seront les candidats précis en ce moment à Marseille, notamment pour lui succéder dans sa famille politique. Quel serait le profil idéal à Marseille d'un élu, d'un maire de Marseille pour vous ?
Des fois, j'en viens à me dire que ce serait peut-être mieux qu'ils viennent de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur se reproduit une sorte de polycopier qui est là depuis 1946, où c'est une famille, un petit duché, qui se donne le sceptre de main en main. Je pense que ce serait bien que ce soit une érudite ou un érudit, que ce soit quelqu'un qui ait de l'empathie, qui prenne la ville entière dans sa considération, et pas uniquement.
Y compris les quartiers nord.
Y compris les quartiers
nord. Vous avez votre studio,
d'enregistrement. Oui, mais par exemple, les transports en commun, ça joue beaucoup. C'est une ville qui, du nord au sud, c'est à peu près la distance de Orly à Roissy. C'est énorme. Et c'est compliqué. Les gens ne communiquent pas, même territorialement. Rénovation d'un centre dynamique, beaucoup de culture, le sport doit revenir au centre. Et surtout, ce qui a été abandonné depuis des années, tout le travail qu'il y avait dans les quartiers, ces gens qui faisaient un travail extraordinaire en périscolaire, pour ne serait-ce que les devoirs, on se plaint de tas de choses, mais il faut accompagner les enfants, et qui font des devoirs des fois dans des cages d'escalier, c'est aussi simple que ça.
Marseille, ville de contradiction, le bien-vivre, le bien-être d'un côté et la violence de l'autre, vous mettez le curseur où en ce moment ?
J'ai toujours mis le curseur entre les deux parce que la ville a toujours été violente. C'est un fait, c'est un port. Il y a toujours eu un côté rugueux à cette ville. Malgré ça, on a connu une parenthèse enchantée dans les années 90 parce qu'on sortait des années 70 et 80. Alors les gens qui se plaignent maintenant, ils n'ont aucun souvenir des années 80. Je rappelle à tous les gens qui parlent des assassinats et des meurtres que c'est dans ces années-là, aux 80, où il y a eu le plus de morts par arme à feu à Marseille. Ça dérange un peu plus, c'est plus les mêmes qui tirent. Ceux qui tirent maintenant sont beaucoup moins sexy. C'est de l'ironie. Deuxième degré, je précise. Il faut préciser quand on parle en public, quand on fait du deuxième degré.
Et le bien vivre aussi à Marseille.
Mais bien sûr qu'il y est, parce qu'on se retrouve d'une culture, il y a une identité derrière tout ça. Et si on fait un peu d'effort, on revit la parenthèse enchantée qu'on a vécue dans les années 90 et on repart pour un tour, mais cette fois définitivement.
Je vandalise le rap simple comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont prises viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas, même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je brosse mes gammes pour donner le maximum. Une fois devant l'oratoire, les caniches nains savent tous qu'on est des Rottweilers. 100% des mots sont à nous, c'est quoi ce rap avec des ghostwriters? J'en pousse seul, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la guerre comme Géronimo, Smike les humilie, tous ce faux bling à Nick et Maritine, comme Rakim les alignés, les plis en ordre alphabétique. Je capterai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme les pires bourgeois, sale manière, sale goût.
Homo Tessando, cet extrait donc du dernier album du groupe I Am, c'est en partenariat avec France Inter. On va d'ailleurs écouter ce titre en entier dans une quinzaine de minutes. Merci à Kenaton et rendez-vous donc pour cette soirée spéciale I Am jeudi prochain sur France Inter. À 20h, vous serez l'invité de Laura Adler et 21h en concert donc au studio 104 de la Maison de la Radio. Concert retransmis en direct sur France Inter. Merci à Kenaton et bonne journée.